From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale de la prêtrise de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de Melchizedek provenant des pieux de West Valley City et de Magna en Utah. Henry Ehring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de Melchizedek, de pieux de West Valley City et de Magna, Utah, sous la direction de Kenny Weiser et accompagné à l'orgue par Richard Elliott. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Anciens d'Israël ». Ensuite, Paul Piper des 70 fera la prière d'ouverture.
Our Father in heaven.
Notre Père céleste, nous nous inclinons devant toi ce soir, tandis que nous nous rassemblons en tant que tes fils pour être de meilleurs frères les uns vis-à-vis des autres et servir dans nos collèges pour savoir apprendre comment bénir tes filles avec lesquelles nous avons pu servir et qui font partie de notre famille. Nous sommes reconnaissants pour de pouvoir venir être enseignés au pied de ceux que tu as désignés pour qu'ils possèdent les clés de cette œuvre dans les derniers jours, afin que nous puissions être enseignés les doctrines de cette œuvre sainte, celle de ton Fils. Et c'est dans ce but que nous te demandons que ton Esprit soit avec nous, pour que nous puissions apprendre, que nous puissions être enseignés, et que ceux qui vont parler, nous enseigner, puissent être inspirés, afin que nous puissions devenir ce que tu veux que nous devenions. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Le chœur interprétera maintenant « Dans nos foyers, tout est beau ». Après le chant, nous écouterons Jeffrey Holland du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Le Grand Curtis, fils des 70.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Merci, frère, pour ce magnifique chant. Il n'y a pas très longtemps, en rentrant du travail, une sœur seule, que j'appellerai Molly, trouve son sous-sol recouvert entièrement de 5 cm d'eau. Elle comprend immédiatement que ses voisins, avec qui elle partage les conduites d'évacuation, ont dû faire énormément de lessive et pris beaucoup de bains ce jour-là, car toute l'eau a reflué chez elle. Après avoir appelé une amie pour qu'elle vienne l'aider, elles se mettent toutes les deux à écoper et éponger. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Son amie s'écrie : « Ce sont tes instructeurs au foyer !» Molly rit. Elle répond : « C'est le dernier jour du mois, mais je t'assure que ce ne sont pas mes instructeurs au foyer. » Pieds nus, les pantalons mouillés, les cheveux relevés dans un bandana et les mains dans une paire de gants en latex très à la mode, Molly se fraye un chemin vers la porte. Mais son apparition saisissante n'est rien en comparaison du spectacle saisissant qui s'offre à elle. C'était ses instructeurs au foyer. « J'ai failli tomber à la renverse », m'a-t-elle dit plus tard. C'était un miracle d'enseignement au foyer, le genre de ceux que les autorités générales racontent dans leurs discours de conférence générale. Puis elle a continué. Mais juste au moment où j'hésitais entre les embrasser et leur tendre une serpillière, ils ont dit « Oh Molly, nous sommes désolés. Il est évident que tu es occupée. Nous ne voulons pas déranger. Nous reviendrons une autre fois. » Et ils sont partis. Qui était-ce ? A crié son ami depuis le sous-sol. Molly a admis, j'avais envie de dire, ce n'était sûrement pas les trois néphites. Mais je me suis contenu et j'ai dit très calmement, c'était mes instructeurs au foyer. Mais ils ont pensé que le moment n'était pas opportun pour remettre leur message. Frères, examinons brièvement le devoir de la prêtrise qui a été décrit comme étant la première source d'aide de l'Église pour ses membres seuls et ses familles. Des forêts entières ont été sacrifiées pour fournir le papier nécessaire à son organisation et ensuite à ses réorganisations. Un millier de discours de motivation ont été prononcés pour tenter de l'encourager. Le sujet a provoqué des montagnes de culpabilité dont aucune cordée freudienne ne pourrait jamais venir à bout. Pourtant, nous sommes encore loin d'atteindre un résultat convenable quant au commandement du Seigneur de toujours veiller sur les membres de l'Église par l'enseignement au foyer de la prêtrise. Une partie du problème que nous rencontrons est due au changement des données démographiques de l'Église. Avec nos membres, maintenant disséminés dans plus de 30 000 paroisses et branches, situés dans quelques 188 pays et territoires, il est beaucoup plus difficile de visiter nos frères et sœurs chez eux que ce ne l'était dans les premiers temps de l'Église, quand un voisin instruisait un voisin dans ce que l'on appelait un enseignement de quartier. De plus, dans de nombreuses unités de l'Église, le nombre de détenteurs de la prêtrise disponibles pour faire l'enseignement au foyer est limité, ce qui laisse à ceux qui peuvent servir le soin de 18 ou 20 familles ou plus. D'autres problèmes peuvent également s'ajouter. De longues distances à parcourir, des frais de transport élevés et le manque de moyens de transport, de longues journées et semaines de travail. Ajoutez à cela, les cultures où les visites au foyer sans invitation sont tabous. Et les problèmes de sécurité qui existent dans de nombreux quartiers dans le monde. Bien, nous commençons à voir la complexité du problème. Frères, dans le meilleur des mondes et dans les situations où cela est possible, une visite mensuelle dans chaque foyer est toujours l'idéal vers lequel l'Église doit tendre. Mais consciente que, dans de nombreux endroits du monde, cet idéal n'est pas réalisable et que nous donnons à ses frères le sentiment d'échouer lorsque nous leur demandons de faire ce qui, dans la réalité, ne peut pas être fait, la première présidence, en décembre 2001, a envoyé aux dirigeants de la prêtrise de l'Église cette recommandation inspirée et utile. Dans certaines régions, l'enseignement au foyer, dans tous les foyers, peut ne pas être possible chaque mois. En raison d'un nombre insuffisant de détenteurs de la prêtrise pratiquants ou d'autres difficultés locales, les dirigeants doivent alors utiliser au mieux les moyens dont ils disposent pour veiller sur chaque membre et le fortifier. Frères, si, dans ma paroisse ou ma branche, je me trouvais dans ce genre de situation difficile, mon compagnon d'enseignement de la prêtrise d'Aaron et moi suivrions le conseil de la première présidence, qui est maintenant une règle du manuel d'instruction, de cette manière. D'abord, quel que soit le nombre de mois que cela prendrait pour y arriver, nous suivrions le commandement scriptural de rendre visite à chaque membre en établissant un emploi du temps qui nous amènerait dans ces foyers selon un calendrier réalisable et pratique. Dans ce calendrier serait spécifié le temps que nous pourrions consacrer à chaque foyer ainsi que la fréquence de nos visites, en accordant la plus haute priorité aux personnes qui ont le plus besoin de nous, les amis de l'Église, que les missionnaires instruisent, les nouveaux convertis, les personnes malades, isolées, non pratiquantes, les parents seuls qui ont encore des enfants à la maison, et ainsi de suite. Tout en suivant notre calendrier de visite à tous les foyers, ce qui peut prendre plusieurs mois, nous contacterions les personnes et les familles de notre liste par tout moyen que le Seigneur a fourni. Bien sûr, nous ferions attention à nos familles à l'Église et, comme l'Écriture le dit, nous nous parlerions l'un à l'autre du bien-être de leur âme. En outre, nous passerions des appels téléphoniques, enverrions des courriels et des SMS, et même une salutation par l'un des nombreux réseaux sociaux à notre disposition. Pour répondre à des besoins particuliers, nous pourrions envoyer une citation tirée des Écritures ou une ligne d'un discours de conférence générale ou encore un message mormon puisé dans l'abondante documentation du site lds.org. Pour reprendre les termes de la première présidence, nous ferions de notre mieux dans la situation où nous sommes avec les moyens dont nous disposons. Frères, ce soir je vous appelle à élever votre vision de l'enseignement au foyer. Voyez-vous de manière nouvelle et meilleure comme des représentants du Seigneur auprès de ses enfants. Cela signifie abandonner la tradition du calendrier effréné de la fin du mois, à la mode de la loi de Moïse, selon lequel vous vous précipitez pour laisser un message tout fait tiré des magazines de l'Église que la famille a déjà lu. À la place, nous aimerions que vous ouvriez une ère de sollicitude sincère pour les membres centrés sur l'Évangile, veillant les uns sur les autres et vous souciant les uns des autres, répondant aux besoins spirituels et temporels par tous les moyens possibles. Pour ce qui est de ce qui compte comme enseignement au foyer, toutes les bonnes choses comptent, alors faites rapport de toutes. En fait, le rapport qui importe le plus, c'est la manière dont vous avez fait du bien et pris soin des personnes dont vous avez la charge, ce qui n'a quasiment rien à voir avec un calendrier particulier ou un endroit particulier. Ce qui importe, c'est que vous aimiez les gens qui vous sont confiés et que vous vous acquittiez du commandement de toujours veiller sur les membres de l'Église. Le 30 mai de l'année dernière, mon ami Troy Russell sortait lentement son pick-up du garage pour aller donner des affaires à Deseret Industries. Il a senti son pneu arrière rouler sur une bosse, pensant qu'un objet était tombé de la camionnette il en est descendu et a trouvé son fils de 9 ans, Austin, allongé à plat ventre sur le trottoir. Les cris, la bénédiction de la prêtrise, l'équipe de secours et le personnel de l'hôpital n'ont été, dans ce cas, d'aucun secours. Austin est décédé. Incapable de dormir ou de trouver la paix, Troy était inconsolable. Il disait que c'était plus qu'il n'en pouvait supporter et qu'il ne pouvait pas continuer. Mais dans ce moment atroce, trois forces rédemptrices se manifestent. D'abord, c'est l'amour et l'esprit rassurant de notre Père Céleste, une présence communiquée par le Saint-Esprit qui console Troy, l'instruit avec amour et murmure que Dieu connaît tout de la perte d'un fils beau et parfait. Deuxièmement, c'est sa femme, Deidra, qui serre Troy dans ses bras, lui exprime son amour et lui rappelle qu'elle aussi a perdu ce fils, mais qu'elle est décidée à ne pas perdre aussi son mari. Troisièmement, dans cette histoire, il y a John Manning, instructeur au foyer extraordinaire. Je ne sais pas à quelle fréquence John et son jeune compagnon d'enseignement ont rendu visite au foyer des Russell, ou quel est le message qu'ils ont remis quand ils y sont allés, ou comment ils ont fait rapport de leur action. Ce que je sais, c'est qu'au printemps dernier, Frère Manning s'est baissé et a relevé Troy Russell de la tragédie qui s'est produite sur ce trottoir, comme s'il ramassait le petit Austin lui-même. En instructeur au foyer, ou sentinelle, ou frère dans l'Évangile qu'il était censé être, John s'est simplement chargé de veiller au titre de la prêtrise sur le bien-être de Troy Russell. Il a commencé en disant « Troy, Austin veut que tu te remettes sur pied, y compris sur le terrain de basket. Je serai donc là tous les matins à 5h15. Tiens-toi prêt, parce que je n'ai pas envie de devoir entrer chez toi pour te faire lever, et je sais que Deidra ne le voudra pas non plus. » Plus tard, Troy m'a raconté, je ne voulais pas y aller, parce que ces matins-là, j'avais toujours amené Austin, et je savais que les souvenirs seraient trop douloureux. Mais John a insisté. Alors j'y suis allé. Dès le premier jour, nous avons parlé, ou plutôt, j'ai parlé, et John a écouté. Je parlais tout le long du trajet jusqu'à l'église, et ensuite jusqu'à la maison. Parfois, je parlais pendant que nous étions garés dans l'allée et regardions le soleil se lever sur Las Vegas. Au début, c'était dur, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que j'ai retrouvé mes forces grâce à un basketteur de l'église d'1m88, très lent et avec un tir en suspension absolument pathétique, mais qui m'a aimé et m'a écouté jusqu'à ce que le soleil se lève enfin à nouveau sur ma vie. Mes frères de la prêtrise, quand nous parlons d'enseignement au foyer, ou d'attention bienveillante, ou de ministère personnel de la prêtrise, ou de tout autre nom que vous lui donniez, c'est de cela que nous parlons. Nous vous demandons, en qualité d'instructeur au foyer, d'être des représentants de Dieu auprès de ses enfants, d'aimer, de vous soucier, et de prier pour les personnes qui vous sont confiées, tout comme nous vous aimons. Nous nous soucions de vous, et nous prions pour vous. Puissiez-vous veiller sur le troupeau de Dieu avec vigilance et le fortifier par les moyens adaptés à votre situation. C'est là ma prière au nom de notre bon berger à tous, dont je suis le témoin, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
On June 14,
le 14 juin 1989, en raison de fausses informations circulant sur l'Église, le gouvernement du Ghana a interdit toutes les activités de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans ce pays d'Afrique. Il a saisi tous les biens de l'Église et l'œuvre missionnaire s'est arrêtée. Les membres de l'Église, qui appellent cette période l'immobilisation, ont fait de leur mieux pour vivre l'Évangile, sans réunion de branches ni le soutien des missionnaires. On raconte de nombreuses histoires inspirantes sur la façon dont les membres ont continué de faire briller la lumière de l'Évangile en exerçant leur culte chez eux et en veillant les uns sur les autres en tant qu'instructeurs au foyer et instructrices visiteuses. Le malentendu a fini par être dissipé. Le 29 novembre 1990, l'immobilisation a pris fin et les activités habituelles de l'Église ont repris. Depuis, les relations entre l'Église et le gouvernement du Ghana sont excellentes. Les membres qui ont vécu pendant l'immobilisation ne manquent pas de faire remarquer les bénédictions qui ont résulté de cette période inhabituelle. La foi de nombreuses personnes a été fortifiée par l'adversité. L'immobilisation a aussi été la source d'un bienfait qui est survenu de façon inhabituelle. Nicolas Afonso, aîné, jeune policier, avait été chargé de garder un lieu de culte de l'Église pendant l'immobilisation. Il avait la responsabilité de surveiller le bâtiment la nuit. La première fois que Nicolas est arrivé au lieu de culte, il a vu des objets éparpillés, des papiers, des livres et des meubles dans tous les sens. Au milieu de ce désordre, il a vu un exemplaire du Livre de Mormon. Il a essayé de ne pas y prêter attention parce qu'on lui avait dit qu'il était malfaisant, mais il s'est senti étrangement attiré par lui. Finalement, il n'a pas pu ignorer le livre plus longtemps. Il l'a ramassé et il s'est senti poussé à commencer à le lire. Il a lu toute la nuit, le visage baigné de larmes. La première fois qu'il l'a pris, il a lu la totalité du premier livre de Néphi. La deuxième fois, il a lu le deuxième livre de Néphi. Quand il est arrivé à deuxième Néphi, chapitre 25, il a lu ce qui suit. Et nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ. Nous prêchons le Christ. Nous prophétisons concernant le Christ. Et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Nicolas a alors ressenti l'esprit tellement fort qu'il s'est mis à sangloter. Il a pris conscience que pendant ses lectures, il avait reçu plusieurs inspirations spirituelles, lui disant qu'il s'agissait d'un livre d'écriture, le livre le plus correct qu'il ait jamais lu. Il a compris que les saints des derniers jours, contrairement à ce qu'il avait entendu dire, croyaient fermement en Jésus-Christ. Après l'immobilisation et lorsque les missionnaires sont revenus au Ghana, Nicolas, sa femme et ses enfants se sont joints à l'Église. Lorsque je l'ai vu l'année dernière, il était commandant de la police et président du district de Tamale. Il explique, « L'Église a transformé ma vie. Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir guidé jusqu'à cet Évangile. » Albert Davis, un autre Ghanéen, m'accompagnait un ami qui avait une réunion de présidence dans l'un de nos lieux de culte. Tandis qu'il attendait, Albert a lu un livre qui se trouvait là. À la fin de la réunion, Albert a voulu l'emporter chez lui. On l'a autorisé à emporter non seulement ce livre, mais aussi un exemplaire du Livre de Mormon. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a commencé le Livre de Mormon. Il ne pouvait plus le poser. Il a lu à la lumière des bougies jusqu'à 3 heures du matin. Il a fait cela pendant plusieurs nuits, bouleversé par ce qu'il lisait et ressentait. Albert est maintenant membre de l'Église. Angelo Scarpula a commencé ses études théologiques en Italie, son pays natal, alors qu'il avait 10 ans. Par la suite, il est devenu prêtre et a servi son Église avec dévouement. Au bout d'un certain temps, sa foi a commencé à faiblir et il a cherché et trouvé des occasions d'approfondir son étude. Mais plus il étudiait, plus il était désemparé. Ce qu'il disait et ressentait le convainquait qu'il y avait eu une apostasie générale par rapport à la vraie doctrine enseignée par Jésus et les premiers apôtres. Angelo a recherché la véritable religion de Dieu parmi différentes confessions, mais il est resté insatisfait pendant de nombreuses années. Un jour, Il a rencontré deux membres de l'Église qui aidaient les missionnaires à trouver des personnes à instruire. Il s'est senti attiré par eux et a écouté joyeusement leurs messages. Il a bien volontiers accepté un exemplaire du Livre de Mormon. Ce soir-là, il a commencé à lire le livre. Il a été en veille de joie. Par l'Esprit, Dieu a donné à Angelo l'assurance profonde qu'il trouverait dans le Livre de Mormon la vérité qu'il cherchait depuis tant d'années. Des sentiments merveilleux l'ont submergé. Ce qu'il a lu et ce que les missionnaires lui ont appris a confirmé sa conclusion qu'il y avait eu une apostasie générale. Mais il a aussi appris que la véritable Église de Dieu avait été rétablie sur la terre. Quelque temps plus tard, il s'est fait baptiser dans l'Église. La première fois que je l'ai rencontré, il était le président de la branche de Rimini, en Italie. L'expérience de Nicolas, Alibert et Angelo avec le Livre de Mormon rappelle celle de Parley Piprat. J'ouvris le livre avec impatience. Je lus toute la journée, a-t-il dit. Manger était un fardeau. Je n'avais aucune envie de nourriture. Le sommeil était un fardeau quand elle vint la nuit, car je préférais lire plutôt que dormir. Tandis que je le lisais, l'Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je sus et compris que le livre était vrai aussi clairement et manifestement qu'un homme comprend et sait qu'il existe. Ma joie était maintenant complète, et cette joie me repayait largement de tous les chagrins, tous les sacrifices et tous les efforts de ma vie. Certaines personnes ont une expérience très marquante lorsqu'elles ouvrent pour la première fois le Livre de Mormon. Mais à d'autres, le témoignage de cette véracité est venu de façon plus progressive, par l'étude et la prière. Cela a été le cas pour moi. J'ai lu le Livre de Mormon pour la première fois lorsque j'étais adolescent, élève du séminaire. Voici l'exemplaire du Livre de Mormon que j'ai lu. Je ne peux pas vous dire à quel moment ou à quel endroit exactement cela s'est produit, mais au cours de cette lecture, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Une chaleur et un esprit se manifestaient chaque fois que j'ouvrais le livre. Le sentiment grandissait pendant que je continuais de lire. Il continue de grandir maintenant. Chaque fois que j'ouvre le Livre de Mormon, c'est comme si j'appuyais sur un interrupteur. L'esprit se déverse dans mon cœur et dans mon âme. À d'autres, le témoignage du Livre de Mormon vient plus lentement, avec beaucoup d'études et de prières. L'un de mes amis a lu le Livre de Mormon pour savoir s'il était vrai. Il a mis en pratique l'invitation de Moroni de demander à Dieu d'un cœur sincère, avec une attention réelle, et avec foi au Christ, le Livre de Mormon était vrai. Mais il n'a pas reçu immédiatement la réponse spirituelle promise. Mais, un jour, tandis qu'il était en train de conduire, plongé dans ses pensées, l'Esprit lui a témoigné de la véracité du Livre de Mormon. Il était tellement heureux et bouleversé qu'il a baissé la vitre de la voiture et a crié à personne en particulier et pourtant au monde entier, « C'est vrai !» Que nous ayons obtenu du témoignage du Mormon la première fois que nous l'avons ouvert ou après un certain temps, il nous influencera constamment si nous continuons de le lire et de mettre en pratique ses enseignements. Et Saint Benson a enseigné, ce livre est d'une puissance qui envahit notre vie dès que nous commençons à l'étudier sérieusement. Vous trouverez plus de force pour résister à la tentation. Vous trouverez la force d'éviter de vous laisser égarer. Vous trouverez la force de rester sur le chemin étroit et resserré. Fin de citation. J'invite toutes les personnes qui reçoivent ce message, notamment les détenteurs de la prêtrise d'Aaron réunis ce soir, à découvrir le pouvoir du Livre de Mormon. Comme l'a recommandé le président Monson, je cite, « Lisez le Livre de Mormon, méditez sur ses enseignements, demandez à notre Père Céleste s'il est vrai. » Fin de citation. Pendant que vous le ferez, vous sentirez la présence de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit fera partie de votre témoignage que le Livre de Mormon est vrai, que Joseph Smith était un prophète de Dieu, et que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est la véritable Église de Dieu sur la terre aujourd'hui. Ce témoignage vous aidera à résister à la tentation. Il vous préparera pour le grand appel à la diligence pour que les hommes travaillent dans les vignes du Seigneur. Il sera une encre sûre lorsqu'on se servira d'accusations ou de calomnies pour attaquer votre foi. Il sera une fondation solide, comme le roc, face à des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre, du moins immédiatement. Vous serez à même de discerner la vérité d'erreur et vous sentirez la force du Saint-Esprit confirmer de nouveau et continuellement votre témoignage, tandis que vous continuerez de lire le livre de Mormon tout au long de votre vie. Je recommande aussi à tous les parents qui écoutent ou lisent ce message de faire en sorte que le livre de Mormon soit au cœur de votre foyer. Quand nos enfants étaient jeunes, nous lisions le livre de Mormon pendant le petit déjeuner. Voici le marque-page que nous utilisions. Au recto, il y a une citation du président Benson promettant que Dieu déverserait une bénédiction sur nous si nous lisions le livre de Mormon. Au dos se trouve cette promesse de Marion G. Romney, ancien conseiller dans la première présidence. Je suis certain que si les parents lisent au foyer le livre de Mormon régulièrement et dans la prière, seuls et avec leurs enfants, l'esprit de ce grand livre viendra imprégner nos foyers et les personnes qui demeurent. L'esprit de querelle disparaîtra. Les parents conseilleront leurs enfants avec plus d'amour et de sagesse. Les enfants se soumettront mieux aux recommandations de leurs parents. La droiture augmentera. La foi, l'espérance et la charité, l'amour pur du Christ rempliront notre foyer et notre vie en apportant avec eux la paix, la joie et le bonheur. Fin de citation. Maintenant que nos enfants ont quitté notre foyer et ont fondé leur propre famille, nous pouvons voir clairement, après de nombreuses années, l'accomplissement de la promesse du président Romney. Notre famille est loin d'être parfaite, mais nous pouvons témoigner de la puissance du livre de Mormon et des bénédictions que sa lecture a apportées et continue d'apporter dans la vie de tous les membres de notre famille. Le pouvoir du livre de Mormon se manifeste peut-être le plus dans l'influence qu'il exerce pour nous rapprocher de Jésus-Christ. Il rend un grand témoignage de lui et de sa mission rédemptrice. Grâce à lui, nous comprenons la majesté et le pouvoir de son expiation. Il enseigne clairement sa doctrine. Et grâce au chapitre magnifique décrivant la visite du Christ ressuscité au Néphite, nous le voyons comme si nous y étions. Aimer, bénir et instruire ces personnes, et nous comprenons qu'il fera la même chose pour nous si nous allons à lui en vivant son évangile. Je témoigne du pouvoir du livre de Mormon, mes frères, en anglais, en italien ou en français, en version papier ou électronique, j'y ai trouvé le même esprit magnifique émanant de ces chapitres et de ces versets. Je témoigne de sa capacité de nous aider à nous rapprocher du Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Au signal du directeur de la musique, l'assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter « Vivons ce bonheur ». Après le chant, nous écouterons Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. J'aurai ensuite le plaisir de m'adresser à vous.
What a beautiful hymn.
Quel beau cantique. Merci. L'un des personnages les plus marquants des Écritures est Alma le Jeune. Bien que fils d'un grand prophète, il s'est égaré pendant un temps et est devenu un homme très méchant et idolâtre. Pour des raisons que nous ne pouvons qu'imaginer, il s'est opposé activement à son père et a cherché à détruire l'Église. Son éloquence et sa capacité de persuasion l'ont amené à rencontrer un grand succès. Mais la vie d'Alma a changé lorsqu'un ange du Seigneur lui est apparu et lui a parlé d'une voix de tonnerre. Pendant 3 jours et 3 nuits, Alma a été torturée d'un tourment éternel par les souffrances d'une âme damnée. C'est alors qu'un souvenir presque effacé a éclairé les ténèbres de son esprit. Une vérité éternelle enseignée par son Père, que Jésus-Christ viendrait pour expier les péchés du monde. Alma avait rejeté ce concept longtemps auparavant, mais à ce moment, son esprit s'est emparé de cette pensée et il a humblement et avidement placé sa confiance dans le pouvoir expiatoire du Christ. Quand Alma s'est remis de cette expérience, il était devenu un autre homme. À partir de ce moment, il a consacré sa vie à réparer les torts qu'il avait causés. Alma est un puissant exemple de repentir, de pardon et de fidélité indéfectible. Il a plus tard été choisi pour succéder à son père à la tête de l'Église de Dieu. Chaque membre de la nation néphite devait connaître l'histoire d'Alma. Les Twitter, Instagram et Facebook de son époque auraient été remplis d'images et d'anecdotes le concernant. Il devait régulièrement faire la couverture du magazine hebdomadaire de Zara Emla et était le sujet de nombreux éditoriaux et d'éditions spéciales. En bref, il était peut-être la plus grande célébrité de son époque. Mais quand Alma a vu que son peuple oubliait Dieu et qu'il s'élevait dans l'orgueil et dans la querelle, ce qui ressemble beaucoup à notre époque, il a choisi de renoncer à son poste public et de se consacrer entièrement à la haute prêtrise du Saint-Ordre de Dieu, en prêchant le repentir parmi les néphites. Au début, Alma a eu beaucoup de succès, et ce jusqu'à ce qu'il se rende à Ammonia. Les habitants de cette ville savaient pertinemment qu'Alma n'était plus leur dirigeant politique, et ils avaient peu de respect pour son autorité dans la prêtrise. Ils l'ont insulté, se sont moqués de lui, et l'ont chassé de leur ville. Le cœur brisé, Alma s'est éloigné d'Ammonia. Mais un ange lui a dit d'y retourner. Essayez d'imaginer cela. Il devait retourner auprès de gens qui le détestaient et qui étaient hostiles à l'Église. C'était là une tâche périlleuse, au cours de laquelle il risquait peut-être de perdre la vie. Mais Alma n'a pas hésité. Il y est retourné rapidement. Il jeûnait depuis de nombreux jours quand il est entré dans la ville. Il a demandé à un parfait inconnu s'il voulait donner quelque chose à manger à un humble serviteur de Dieu. Cet homme s'appelait Amulek. Amulek était un habitant aisé et respecté de la ville d'Ammonia. Bien qu'issu d'une longue lignée de croyants, il avait laissé sa foi s'éteindre. Il a plus tard confessé « J'ai été appelé de nombreuses fois, mais je ne voulais pas entendre. C'est pourquoi je savais tout cela. Et cependant, je ne voulais pas croire. C'est pourquoi j'ai continué à me rebeller contre Dieu. » Mais Dieu préparait Amulek. Et lorsqu'il a rencontré Alma, il a accueilli le serviteur du Seigneur dans sa maison, où Alma est restée de nombreux jours. Pendant cette période, Amuleg a ouvert son cœur au message d'Alma, et un changement merveilleux s'est opéré en lui. À partir de ce moment, Amuleg n'a plus seulement cru, il est devenu un champion de la vérité. Quand Alma s'est à nouveau rendue parmi les habitants d'Ammonia pour les instruire, il avait à ses côtés un deuxième témoin. Amuleg, l'un des leurs. Le récit des événements qui ont suivi constitue l'un des passages les plus doux amers de toutes les Écritures. Vous pouvez le lire dans Alma, chapitre 8 à 16. Aujourd'hui, je vais vous demander de réfléchir à deux questions. Premièrement, que puis-je apprendre d'Alma? Deuxièmement, en quoi suis-je comme Amuleg? Je vais commencer en demandant à tous les dirigeants passés, présents et futurs de l'Église de Jésus-Christ, que pouvez-vous apprendre d'Alma? Alma était un homme exceptionnellement doué et capable. On pourrait facilement penser qu'il n'avait besoin de l'aide de personne. Néanmoins, qu'a-t-il fait lorsqu'il est retourné à Ammonia? Alma a trouvé Amuleg et lui a demandé son aide. Et il l'a reçue. Pour diverses raisons, nous, les dirigeants, sommes parfois réticents à l'idée de trouver nos Amuleg et de leur demander leur aide. Peut-être pensons-nous pouvoir mieux accomplir le travail par nous-mêmes, ou sommes-nous réticents à l'idée de déranger les autres, ou encore croyons-nous que les autres ne voudront pas participer. Trop souvent, nous hésitons à inviter les gens à utiliser les dons que Dieu leur a accordés et à s'engager dans la grande œuvre du salut. Pensez au Sauveur. A-t-il commencé à établir son Église tout seul? Non. Son message n'était pas « Reste à l'écart, je vais m'occuper de ça tout seul ». Non, c'était « Viens et suis-moi ». Il a inspiré, invité et instruit ses disciples, puis leur a manifesté sa confiance, leur disant « Faites ce que vous m'avez vu faire ». De cette façon, Jésus-Christ a édifié non seulement son Église, mais également ses serviteurs. Quel que soit votre appel, que vous serviez comme président d'un collège de diacres, président de pieux ou président d'interrégion, pour réussir, vous devez trouver vos Amuleg. Cela peut être quelqu'un de discret, voire invisible dans votre unité. Cela peut être quelqu'un qui semble dénué d'envie ou de capacité de servir. Vos Amuleg peuvent être jeunes ou âgés, hommes ou femmes, inexpérimentés, fatigués ou non pratiquants dans l'Église. Mais ce qui ne se voit pas forcément à première vue, c'est qu'ils espèrent vous entendre leur dire « Le Seigneur a besoin de vous. J'ai besoin de vous. » Dans le fond, beaucoup veulent servir leur Dieu. Ils veulent être un instrument entre ses mains. Ils veulent lancer leur faucille et œuvrer de toute leur force à préparer la terre pour le retour de notre Sauveur. Ils veulent édifier son Église, mais ils hésitent à commencer. Ils attendent souvent qu'on le leur demande. Je vous invite à penser à ceux qui, dans votre paroisse ou votre branche, dans votre mission ou votre pieu, ont besoin de recevoir un appel à agir. Le Seigneur travaille en eux, les prépare et adoucit leur cœur. Trouvez-les en regardant avec le cœur. Tendez-leur la main, instruisez-les, inspirez-les, demandez-leur. Rappelez-leur les paroles de l'ange à Amuleg, que la bénédiction du Seigneur reposera sur eux et sur leur maison. Vous pourriez être surpris de découvrir un vaillant serviteur du Seigneur qui, autrement, serait resté dans l'ombre. Certains de nous doivent chercher un Amulek, mais d'autres devraient se poser la question « En quoi suis-je comme Amulek ?» Peut-être êtes-vous devenu, au fil des années, un disciple moins engagé. La flamme de votre témoignage s'est peut-être affaiblie. Vous êtes peut-être éloigné du corps du Christ. Vous êtes peut-être déçu, voire en colère. Comme certains des saints de l'Église d'Éphèse autrefois, peut-être avez-vous abandonné votre premier amour, les vérités sublimes et éternelles de l'Évangile de Jésus-Christ. Ou, comme Amulek, vous savez dans votre cœur que le Seigneur vous a appelé de nombreuses fois, mais vous ne vouliez pas entendre. Néanmoins, le Seigneur voit en vous ce qu'il a vu en Amulek, le potentiel d'un vaillant serviteur, avec une œuvre importante à accomplir et un témoignage à transmettre. Il est un service que personne d'autre ne pourrait faire de la même manière que vous. Le Seigneur vous a confié sa sainte prêtrise, qui détient le potentiel divin de bénir et d'édifier les autres. Écoutez avec le cœur et suivez les murmures de l'esprit. J'ai été touché par le parcours d'un frère qui s'est posé la question « Lorsque le Seigneur appellera, voudrais-je entendre ?» Je vais appeler ce frère David. David est entré dans l'Église il y a une trentaine d'années. Il a fait une mission, puis des études de droit. Alors qu'il étudiait et travaillait pour subvenir aux besoins de sa jeune famille, il est tombé sur de la documentation concernant l'Église qui l'a troublé. Plus il lisait ces choses négatives, plus il perdait pied. Il a finalement demandé que son nom soit retiré des registres de l'Église. Dès lors, comme Alma, au jour de sa rébellion, David a passé beaucoup de temps à débattre avec des membres de l'Église, s'impliquant dans des conversations sur Internet avec l'intention d'attaquer leurs croyances. Il était doué pour cela. J'appellerai Jacob l'un des membres avec lesquels il débattait. Jacob était toujours gentil et respectueux envers David, mais il défendait aussi fermement l'Église. Au fil des ans, David et Jacob ont tissé des liens de respect et d'amitié. Ce que David ne savait pas, c'est que Jacob avait commencé à prier pour lui et qu'il a fidèlement continué à le faire pendant plus de 10 ans. Il a même envoyé le nom de David dans les temples du Seigneur afin que l'on prie pour lui en espérant que son cœur serait adouci. Au fil du temps, David a lentement changé. Il a commencé à se remémorer avec tendresse les expériences spirituelles qu'il avait eues et le bonheur qu'il connaissait quand il était membre de l'Église. Comme Alma, il n'avait pas complètement oublié les vérités de l'Évangile qu'il acceptait autrefois. Et comme Amulek, David a senti le Seigneur lui tendre la main. Mais il était maintenant associé dans un cabinet d'avocat, un travail prestigieux. Il s'était construit une réputation de personne critique envers l'Église et il était trop fier pour demander à y être réadmis. Néanmoins, il continuait de sentir l'appel du berger. Il a pris à cœur l'Écriture, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Il a fait cette prière, « Dieu, je veux être un saint des derniers jours, mais j'ai besoin de réponses à mes questions. » Il a commencé à écouter les murmures de l'esprit et les réponses inspirées de ses amis comme il ne l'avait encore jamais fait. L'un après l'autre, ses doutes ont fait place à la foi, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait à nouveau un témoignage de Jésus-Christ et de son Église rétablie. À ce stade, il a su qu'il serait capable de surmonter son orgueil et qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour être réintégré dans l'Église. Finalement, il s'est fait baptiser et s'est mis à compter les jours jusqu'à ce qu'il puisse retrouver toutes ses bénédictions. Je suis heureux de vous annoncer que l'été dernier, David a retrouvé tous ses droits de membre de l'Église. Il est de nouveau pleinement pratiquant dans l'Église et a été appelé instructeur des principes de l'Évangile dans sa paroisse. Il se saisit de toutes les occasions qu'il a de raconter son changement afin de réparer les torts qu'il a causés et de témoigner de l'Évangile et de l'Église de Jésus-Christ. Mes chers frères et mes chers amis, cherchons et trouvons les amulettes dans notre pieu et notre paroisse. Inspirons-les et faisons leur confiance. Il y a beaucoup d'amulettes dans l'Église aujourd'hui. Vous en connaissez peut-être un. Vous êtes peut-être l'un d'eux. Peut-être le Seigneur vous a murmuré de retourner à votre premier amour, de faire don de vos talents, d'exercer la prêtrise dignement et de servir aux côtés des membres de votre unité pour vous rapprocher de Jésus-Christ et édifier le royaume de Dieu ici sur terre. Notre Sauveur bien-aimé sait où vous êtes. Il connaît votre cœur. Il veut vous aider. Il va vous tendre la main. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur. J'ai espoir que ceux qui se sont écartés du chemin des disciples, même de quelques degrés, méditeront sur la bonté et la grâce de Dieu, verront avec le cœur, apprendront d'Alma et d'Amulek, et entendront ces paroles du Seigneur qui changent la vie. Viens et suis-moi. Je vous exhorte à répondre à son appel, car lorsque vous le ferez, vous récolterez la moisson des cieux, et la bénédiction du Seigneur reposera sur vous et sur votre maison. J'en témoigne, et je vous donne ma bénédiction en tant qu'apôtre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'est une bénédiction pour moi d'être dans cette réunion avec les détenteurs de la prêtrise de Dieu. Le dévouement, la foi et le service désintéressé de cette assemblée d'hommes et de garçons sont un miracle moderne. Je m'adresse ce soir aux détenteurs de la prêtrise, unis de tout leur cœur au service du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur accorde son pouvoir à ceux qui, dans tous les offices de la prêtrise, servent dignement dans leur devoir de la prêtrise. Quand il était président de l'Église, Wilford Woodruff a décrit ce qu'avait été son expérience dans les offices de la prêtrise. J'ai entendu le premier sermon que j'ai jamais entendu dans cette Église. Le lendemain, je me suis fait baptiser. J'ai été ordonné instructeur. Ma mission a commencé immédiatement. J'ai accompli toute cette mission en tant qu'instructeur. À la conférence, j'ai été ordonné prêtre. Après avoir été ordonné prêtre, j'ai été envoyé en mission dans le sud du pays. C'était à l'automne 1834. J'avais un compagnon avec moi et nous avons commencé sans bourse ni sac. J'ai voyagé seul, parcourant de nombreux kilomètres, et j'ai prêché l'Évangile. J'ai baptisé beaucoup de gens que je ne pouvais pas confirmer membres de l'Église, parce que je n'étais qu'un prêtre. J'ai voyagé pendant un certain temps, prêchant l'Évangile, avant d'être ordonné ancien. Cela fait maintenant 54 ans que je suis membre du Collège des 12 apôtres. Cela fait maintenant 60 ans que je voyage avec ce collège et avec d'autres. Et je veux dire à cette assemblée que j'ai été tout autant soutenu par le pouvoir de Dieu pendant que je détenais l'office d'instructeur et particulièrement pendant que je servais dans la vigne en tant que prêtre que je l'ai jamais été en tant qu'apôtre. Il n'y a aucune différence en cela tant que nous faisons notre devoir. Cette possibilité spirituelle merveilleuse qu'il n'y ait pas de différence est suggérée dans la description que le Seigneur fait de la prêtrise d'Aaron comme étant une annexe de la prêtrise de Melchisédek. Le mot « annexe » signifie que les deux sont liés. Ce lien est important pour que la prêtrise devienne la force et la bénédiction qu'elle peut être dans ce monde et à jamais, car elle est sans commencement de jour ni fin d'année. Ce lien est simple. La prêtrise d'Aaron prépare les jeunes gens à un engagement encore plus sacré. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise supérieure ou prêtrise de Melchisédek est de détenir les clés de toutes les bénédictions spirituelles de l'Église, d'avoir le droit de recevoir les mystères du royaume des cieux, de voir les cieux s'ouvrir à elle, de communier avec l'Assemblée générale et l'Église du premier-né, et de bénéficier de la communion et de la présence de Dieu le Père et de Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance. Ces clés de la prêtrise ne sont exercées dans leur plénitude que par un seul homme à la fois, le président et grand prêtre président de l'Église du Seigneur. Ensuite, par délégation du président, chaque homme qui détient la prêtrise de Melchisédek peut être doté d'autorité et du privilège de parler et d'agir au nom du Tout-Puissant. Ce pouvoir est infini. Il touche à la vie et à la mort, à la famille et à l'Église, à la nature merveilleuse de Dieu lui-même et de son œuvre éternelle. Le Seigneur prépare le détenteur de la prêtrise d'Aaron à devenir un ancien, servant avec foi, pouvoir et reconnaissance dans cette glorieuse prêtrise de Melchisédek. Vous, anciens, une profonde reconnaissance sera essentielle pour jouer votre rôle dans le service complet de la prêtrise. Vous vous souviendrez des jours où vous étiez diacre, instructeur ou prêtre, quand les personnes qui détenaient la prêtrise supérieure se retournaient pour vous élever et vous encourager dans votre parcours de la prêtrise. Chaque détenteur de la prêtrise de Melchisédek a des souvenirs de ce genre, mais le sentiment de gratitude a peut-être diminué au fil des ans. Mon espoir est de ranimer ce sentiment, et avec lui, la détermination de donner à tous ceux que vous pouvez le même genre d'aide que vous avez reçu un jour. Je me souviens d'un évêque qui me traitait comme si j'étais déjà ce que j'avais le potentiel de devenir dans le pouvoir de la prêtrise. Il m'a appelé un dimanche quand j'étais prêtre. Il m'a dit qu'il avait besoin que je sois son compagnon pour rendre visite des membres de notre paroisse. Il m'a donné l'impression que j'étais son seul espoir de réussite. Il n'avait pas besoin de moi. Il avait d'excellents conseillers dans son épiscopat. Nous avons rendu visite à une veuve sans le sou et qui souffrait de la faim. Il avait besoin de mon aide pour toucher le cœur de cette sœur, lui lancer le défi d'établir un budget et de l'utiliser et lui promettre qu'elle pouvait s'élever pour être en position d'aider les autres.
Nous sommes allés réconforter deux petites filles qui vivaient dans une situation difficile. Quand nous sommes repartis, il m'a dit doucement, « Ces enfants n'oublieront jamais que nous sommes venus les voir. » À la maison suivante, j'ai vu comment inviter un homme non pratiquant à revenir au Seigneur, en le convainquant que les membres de la paroisse avaient besoin de lui. Cet évêque était un détenteur de la prêtrise de Melchizedek qui élevait ma vision et me donnait de l'élan par son exemple. Il m'a appris à avoir le pouvoir et le courage d'aller n'importe où au service du Seigneur. Cela fait longtemps qu'il est parti recevoir sa récompense, mais je me souviens encore de lui parce qu'il a tendu la main pour m'élever quand j'étais un détenteur de la prêtrise d'Aaron inexpérimenté. J'ai appris plus tard qu'il me voyait sur un futur chemin de la prêtrise avec de plus grandes responsabilités qui dépassaient alors ma vision. Mon père a fait la même chose pour moi. C'était un détenteur de la prêtrise de Melchizedek expérimenté et sage. Un jour, un apôtre lui a demandé d'écrire un petit article sur les preuves scientifiques de l'âge de la Terre. Il l'a rédigé avec soin, sachant que certaines des personnes qui le liraient peut-être étaient convaincues que la Terre était beaucoup plus jeune et que ne le laissaient entendre les preuves scientifiques. Je me souviens encore de mon père me tendant ce qu'il avait écrit et me disant « Hal, tu as la sagesse spirituelle de savoir si je dois envoyer ceci aux apôtres et aux prophètes. » Je ne me souviens pas bien de ce que disait l'article, mais je garderai pour toujours en moi la reconnaissance que j'ai éprouvée envers un merveilleux détenteur de la prêtrise de Melchizedek qui voyait en moi la sagesse spirituelle que je ne pouvais pas voir. Une nuit des années plus tard, après que j'ai été ordonné apôtre, le prophète de Dieu m'a appelé et m'a demandé de lire quelque chose qui avait été écrit concernant la doctrine de l'Église. Il avait passé la nuit à lire les chapitres d'un livre. Il a dit avec un petit rire, « Je ne peux pas lire tout ça. Vous ne devriez pas vous reposer pendant que je travaille. » Il a ensuite employé presque les mêmes mots que mon père des années auparavant. « Hal, vous devriez lire cela. Vous saurez s'il est bon de le publier. » Ce même modèle, où un détenteur de la prêtrise de Melchizedek élève la vision et donne confiance, s'est manifesté un soir lors d'un festival oratoire patronné par l'Église. À l'âge de 17 ans, on m'a demandé de m'adresser à un large auditoire. Je n'avais aucune idée de ce qu'on attendait de moi. Comme on ne m'avait pas donné le sujet, j'ai préparé un discours qui allait bien au-delà de ce que je savais de l'Évangile. Pendant que je parlais, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Je me souviens encore de mon sentiment d'échec à la fin de mon discours. L'orateur suivant, qui était le dernier, était Matthew Coley, du Collège des Douze Apôtres. C'était un orateur talentueux, aimé de tous les membres de l'Église. Je me souviens encore de l'avoir regardé depuis mon siège à côté de la chaire. Il a commencé à parler d'une voix puissante. Il a dit que mon discours lui avait donné l'impression d'être dans une grande conférence. Il a souri en disant cela. Mes sentiments d'échec se sont envolés et ont fait place à la confiance que je pourrais peut-être devenir un jour ce qu'il semblait penser que j'étais déjà. Le souvenir de cette soirée me pousse encore à écouter attentivement quand un détenteur de la prêtrise d'Aaron parle. Du fait de ce que frère Coley a fait pour moi, je m'attends toujours à entendre la parole de Dieu. Je suis rarement déçu et souvent émerveillé, et je ne peux m'empêcher de sourire comme frère Coley l'a fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à fortifier nos frères plus jeunes à s'élever dans la prêtrise, mais rien ne donnera de meilleurs résultats que de les aider à acquérir la foi et la confiance qu'ils peuvent puiser au pouvoir de Dieu dans leur service de la prêtrise. Cette foi et cette confiance ne demeureront pas avec eux s'ils ne sont édifiés qu'une seule fois, même par le plus doué des détenteurs de la prêtrise de Melchizedek. La capacité de puiser à ses pouvoirs doit être cultivée par de nombreuses expressions de confiance de la part de ceux qui ont plus d'expérience dans la prêtrise. Les détenteurs de la prêtrise d'Aaron auront aussi besoin d'encouragement et de correction chaque jour et même chaque heure de la part du Seigneur lui-même par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Cela leur sera accessible s'ils choisissent d'en rester dignes. Cela dépendra des choix qu'ils font. C'est pour cette raison que nous devons enseigner, par l'exemple et par le témoignage, que les paroles du grand dirigeant de la prêtrise de Melchizedek, qui était le roi Benjamin, sont vraies. Ce sont des mots d'amour prononcés au nom du Seigneur, dont c'est la prêtrise. Le roi Benjamin enseigne ce qui est requis de nous pour rester suffisamment pur et recevoir l'encouragement et la correction du Seigneur. Et finalement, je ne peux pas vous dire toutes les choses par lesquelles vous pouvez commettre le péché, car il y a divers voies et moyens, oui, tant que je ne peux les énumérer. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne veillez pas à vous-même, et à vos pensées, et à vos paroles, et à vos actes, et n'observez pas les commandements de Dieu, et ne continuez pas dans la foi de ce que vous avez entendu concernant la venue de notre Seigneur jusqu'à la fin de votre vie, vous périrez. Maintenant, ô homme, souviens-toi et ne péris pas. Nous sommes tous conscients des traits enflammés que l'ennemi de la justice, qui sont envoyés comme un vent terrible contre les jeunes détenteurs de la prêtrise que nous aimons tant. Ils nous paraissent semblables aux jeunes guerriers qui s'appelaient eux-mêmes les fils des Lamans. Ils peuvent survivre comme ces jeunes guerriers l'ont fait, s'ils se préservent du danger, comme le roi Benjamin les a exhortés à le faire. Les fils des Lamans ne doutaient pas. Ils ont combattu avec bravoure et sont sortis vainqueurs parce qu'ils croyaient aux paroles de leur mère. Nous comprenons le pouvoir qu'a la foi d'une mère aimante. Les mères apportent ce soutien merveilleux à leurs fils aujourd'hui. Nous, détenteurs de la prêtrise, pouvons et devons ajouter à ce soutien par notre détermination à assumer la responsabilité qui nous a été confiée quand nous sommes convertis, de tendre la main et d'affermir nos frères. Je prie pour que chaque détenteur de la prêtrise de Melchizedek accepte l'occasion offerte par le Seigneur. Et si quelqu'un d'entre vous est fort dans l'esprit, qu'il emmène celui qui est faible, afin qu'il soit édifié en toute humilité, afin qu'il devienne fort aussi. Emmenez donc ceux qui sont ordonnés à la moindre prêtrise, et envoyez-les devant vous pour faire des arrangements, préparer le chemin et remplir les engagements que vous ne pouvez pas remplir vous-même. Voici, c'est de cette manière que mes apôtres dans les temps anciens édifièrent mon Église. Vous, dirigeants de la prêtrise et pères de détenteurs de la prêtrise d'Aaron, pouvez accomplir des miracles. Vous pouvez remplir les rangs des anciens fidèles de jeunes gens qui acceptent l'appel à prêcher l'Évangile et à le faire avec confiance. Vous verrez beaucoup de ceux que vous avez édifiés et encouragés rester fidèles, se marier dignement au temple et en édifier, et préparer d'autres à leur tour. Cela ne demandera pas de nouveaux programmes d'activité, une documentation pour l'enseignement amélioré ou de meilleurs réseaux sociaux. Cela ne demandera pas un appel allant au-delà de ce que vous avez maintenant. Le serment et l'alliance de la prêtrise vous donnent le pouvoir, l'autorité et la direction à suivre. J'espère qu'une fois rentré chez vous, vous étudierez avec soin le serment et l'alliance de la prêtrise que l'on trouve dans Doctrine et Alliance 84. Nous espérons tous que davantage de jeunes gens auront des expériences semblables à celles de Wilford Woodruff qui, lorsqu'il était détenteur de la prêtrise d'Aaron, prêchait avec l'Évangile de Jésus-Christ, avec le pouvoir de conversion. Je prie pour que nous nous élevions à la hauteur de notre appel à édifier les autres, pour les préparer à leur service glorieux. Je remercie de tout mon cœur les gens merveilleux qui m'ont édifié et m'ont appris à aimer et à édifier les autres. Je témoigne que le président Monson détient toutes les clés de la prêtrise sur terre aujourd'hui. Je témoigne que, par sa vie de service, il a été un exemple pour nous tous de la façon de nous tourner vers les autres pour les édifier en tant que détenteur de la prêtrise de Melchizedek. Je suis personnellement reconnaissant de la façon dont il m'a édifié et m'a appris à édifier les autres. Dieu le Père vit. Jésus est le Christ. C'est son Église et son royaume. C'est sa prêtrise. Je sais cela par moi-même, par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions également le chœur de la prêtrise de Melchizedek de la musique inspirante et toutes les personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le dernier orateur de cette session sera Thomas Monson, notre prophète bien-aimé. Après le discours du président Monson, le chœur clôra cette conférence en chantant « Tu éclaires le chemin ». Ensuite, Bruce Porter des 70 fera la prière de clôture.
Ce soir, frère, je prie notre Père Céleste de me guider à ce que je vous remets mon message. En 1833, le frère a révélé à Joseph Smith, le prophète, un plan pour vivre en bonne santé. Ce plan se trouve à la section 89 des Doctrines d'Alliance et est connu sous le nom de « Paroles de sagesse ». Il donne des directives précises au sujet des aliments que nous mangeons. Il interdit l'usage de substances qui sont nocives pour notre corps. Les personnes qui obéissent au commandement du Seigneur et qui observent fidèlement la parole de sagesse ont la promesse de bénédictions particulières, parmi lesquelles une bonne santé et une endurance physique accrue. Et récemment, j'ai lu le récit véridique d'une démonstration spectaculaire de ses promesses. Un membre de l'Église fidèle, John A. Larsen, a servi durant la Seconde Guerre mondiale dans les gardes-côtes des États-Unis, à bord du navire USS Cambria. Au cours d'une bataille aux Philippines, on a appris l'approche d'un escadron de bombardiers et d'avions de chasse kamikazes. Des ordres ont été donnés pour une évacuation immédiate. Du fait que l'USS Cambria était déjà parti, John et ses trois collègues ont rassemblé leur équipement et se sont précipités sur la plage, espérant monter à bord de l'un des navires sur le départ. Heureusement, une péniche de débarquement les a pris et s'est hâtée en direction du dernier bateau qui quittait la baie. Dans leurs efforts pour évacuer la zone le plus vite possible, les hommes à bord de ce navire, sur le point de partir, étaient occupés sur le pont qui n'eurent que le temps de lancer des cordes aux quatre hommes dans l'espoir qu'ils pourraient se hisser sur le pont. John, une lourde radio attachée au dos, s'est retrouvé suspendu au bout d'une corde de 12 mètres de long sur le flanc d'un bateau qui se dirigeait vers le large. Il a commencé à se hisser vers le haut, une main après l'autre, sachant que s'il lâchait prise, il périrait aussi certainement. Il n'avait grimpé qu'un tiers de la distance quand ses bras ont commencé à le brûler de douleur. Il était devenu si faible qu'il pensait ne plus pouvoir tenir. Alors que ses forces déclinaient et qu'il contemplait funestement son sort, John a fait appel au Seigneur en silence, lui disant qu'il avait toujours respecté la parole de sagesse, qu'il avait mené une vie saine et qu'il avait maintenant désespérément besoin des bénédictions promises. Il a raconté plus tard que, tandis qu'il finissait sa prière, il a senti une grande force monter en lui. Il a recommencé à grimper et s'est hissé aisément le long de la corde. Lorsqu'il a atteint le pont, sa réputation était normale. et il n'y a pas le moindre soufflement. Les bénédictions d'une meilleure santé et d'une meilleure endurance promise par la parole de sagesse lui avaient été accordées. Il a remercié son Père Céleste alors et durant le reste de sa vie pour la réponse à sa prière désespérée pour obtenir de l'aide. Frère, puissions-nous prendre soin de notre corps et de notre esprit en observant les principes énoncés dans la parole de sagesse. Le plan que Dieu nous a fourni. Je témoigne de tout mon cœur et de toute mon âme des bénédictions glorieuses qui nous attendent si nous le faisons. Je prie pour qu'il en soit ainsi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur. Amen.
Our Father in heaven,
notre Père céleste, nous te remercions pour l'esprit de paix, de fraternité et de vérité que nous avons ressenti dans cette session de prêtrise. Nous te remercions, Dieu, pour un prophète, pour notre président Manson, bien-aimé. Nous te remercions pour ces conseillers, ces nobles conseillers qui dirigent ton Église et pour tous ceux qui travaillent dans les niveaux généraux de l'Église ou dans l'Église au niveau des pieux et des paroisses. Nous te remercions, Père Céleste, pour le rétablissement de ton Évangile à travers le prophète Joseph Smith. Nous te prions avec humilité pour que, en partant de cette réunion ce soir, nous puissions conserver ce désir d'aller de l'avant et de se servir et d'accomplir nos tâches. Nous te prions pour que nous puissions retourner dans nos familles, à ceux qui nous sont chers, nos épouses et enfants, dans un esprit d'amour et de paix, avec qu'il soit manifesté. Nous te remercions pour ton Fils bien-aimé, notre Rédempteur Jésus-Christ, que nous puissions toujours être ses témoins en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Pour ces nombreuses bénédictions, nous te remercions et nous te demandons ces choses humblement au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.